Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 1, scène 17. Kutuzov, la tête inclinée et affaissée sur lui-même de tout le poids de son corps, était toujours assis sur le banc, recouvert d'un tapis, où Pierre l'avait vu le matin, ne prenant aucune disposition, mais approuvant ou désapprouvant ce qu'on venait lui proposer.
« C'est cela, oui, oui, faites !»
disait-il. Ou bien...
« Vas-y, va voir, mon ami !»
Ou bien encore...
« C'est inutile, attendons !»
Il écoutait cependant les rapports qu'on lui faisait, donnait les ordres qu'on lui demandait, sans paraître s'intéresser au sens des paroles de ceux qui lui parlaient, mais épiant toutefois leur ton et l'expression de leur visage. Sa longue expérience et sa sagesse de vieillard lui disaient qu'il n'était pas possible à un seul homme d'en diriger 100 000, luttant avec la mort. Il savait que ni les dispositions du commandant en chef, ni l'emplacement choisi par les troupes, ni le nombre des canons et des gens tués, ne décident du sort de la bataille, mais bien cette force insaisissable qui s'appelle l'élan des troupes, qu'il tâchait de découvrir et de conduire autant qu'il était en son pouvoir. La figure de Kutuzov avait une expression calme et grave, qui formait avec la faiblesse de son corps, usé par l'âge, un contraste saisissant. À 11 heures du matin, on vint lui dire que les ouvrages avancés dont les Français s'étaient emparés leur avaient été repris, mais que le prince Bagration était blessé. Kutuzov poussa un cri et secoua la tête.
« Va tout de suite trouver le prince Pierre Ivanovitch, »
dit-il à son aide de camp et, s'adressant ensuite au prince de Wurtemberg.
« Votre Altesse ne voudrait-elle pas prendre le commandement de la première armée ?»
Le prince partit à l'instant, et il n'avait pas encore atteint le village de Semenovski qu'il envoya son aide de camp demander des renforts. Kutuzov fronça le sourcil, envoya Doktourov prendre le commandement de la première armée et pria le prince, dont les conseils lui étaient indispensables dans ces graves circonstances, de revenir auprès de lui. Lorsqu'il lui apprit que Murat était prisonnier, il sourit et son état-major s'empressa de le féliciter.
« Attendez, messieurs, »
dit-il.
« Attendez, la bataille est certainement gagnée et cette nouvelle de la prise de Murat n'a rien de bien extraordinaire. Mais il ne faut pas se réjouir trop tôt. »
Cependant, il envoya son aide de camp faire part de cette capture aux troupes. Un peu plus tard, à l'arrivée de Cherbinine, qui venait lui annoncer la reprise par les Français des ouvrages avancés du village de Semenovski, Kutuzov devina, à l'expression de son visage et au bruit qui arrivait du champ de bataille, que les choses allaient mal. Se levant aussitôt, il le prit à l'écart.
« Mon ami,
dit-il,
va auprès d'Irmolov et vois un peu ce qu'il y a à faire. »
Kutuzov se trouvait à Gorki, au centre même de notre position. L'attaque dirigée par Napoléon sur notre flanc gauche avait été vaillamment et à plusieurs reprises repoussée par la cavalerie d'Ouvarov. Mais au centre, ses troupes n'avaient pas dépassé Borodino. À 3 heures, les Français cessèrent l'attaque, et Kutuzov put constater, sur la physionomie de tous ceux qui arrivèrent du champ de bataille comme sur celle de son entourage, une surexcitation portée au dernier degré. Le succès dépassait ses espérances, mais ses forces lui faisaient défaut. Sa tête s'inclinait et il sommeillait involontairement. On lui apporta à dîner. Pendant son repas, Wolzogen s'approcha de lui. C'était celui-là même qui, au dire du prince André, affirmait que la guerre doit avoir l'espace libre devant elle et qui détestait Bagration. Il venait rendre compte à Kutuzov, de la part de Barclay, de la marche des opérations militaires du flanc gauche. Le sage Barclay, en voyant la foule des fuyards blessés et les dernières lignes enfoncées, en avait conclu que la bataille était perdue et avait chargé son aide de camp favori d'en prévenir Kutuzov. Celui-ci, mâchant avec peine un morceau de poule rôti, regardait complaisamment venir Wolzogen. Wolzogen s'approchait avec nonchalance, souriant du bout des lèvres, la main à la visière de sa casquette avec une affectation cavalière. Il avait l'air de dire, comme militaire savant et distingué, Je laisse aux Russes le soin d'encenser ce vieil air inutile que j'apprécie à sa juste valeur.
Ce vieux monsieur.
C'était le nom que les Allemands donnaient à Koutouzov.
Ce vieux monsieur se donne ses aises.
Pensa Wolzogen en jetant un regard sur son assiette, et il commença son rapport sur la situation du flanc gauche, telle qu'il avait mission de la faire connaître, et telle qu'il l'avait jugée par lui-même.
Les principaux points de notre position sont au pouvoir de l'ennemi. Nous ne pouvons l'en déloger, faute de troupes. Elle fuit, et il est impossible de les arrêter.
Koutouzov cessa de manger et le regarda avec surprise. Il semblait ne pas comprendre ce qu'il avait entendu. Wolzogen remarqua son émotion et ajouta avec un sourire
« Je ne me crois pas en droit de cacher à votre Altesse ce que j'ai vu. Les troupes sont en pleine déroute. »« Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ?»
s'écria Koutouzov en se levant vivement, les sourcils froncés et faisant de ses mains tremblantes des gestes de menace, tout près de suffoquer. Il s'écria
« Comment osez-vous, monsieur, me dire cela à moi ? Vous ne savez rien. Dites à votre général que ces nouvelles sont fausses, que je connais mieux que lui le véritable état des choses. »
Wolzogen fit un mouvement pour l'interrompre, mais Koutouzov poursuivit.
« L'ennemi est repoussé du flanc gauche et fortement entamé au flanc droit. Ce n'est pas une raison parce que vous avez mal vu de dire ce qui n'est pas. Allez répéter au général Barclay que mon intention est d'attaquer l'ennemi demain. »
Tous se taisaient et l'on entendait que la respiration haletante du vieillard.
Il est repoussé de partout. J'en rends grâce à Dieu et à nos braves troupes. La victoire est à nous et demain nous le chasserons du sol sacré de la Russie.
Ajouta-t-il en se signant et en laissant échapper un sanglot. Wolzogen haussa les épaules, un sourire ironique passa sur ses lèvres, et il s'éloigna sans chercher même à dissimuler la surprise que lui causait l'aveugle entêtement du « vieux monsieur ». Un général, d'un extérieur agréable, parut en ce moment sur la colline.
« Ah, voilà mon héros !»
dit Koutouzov en l'indiquant de la main. C'était Raïevski. Il avait passé toute la journée sur le point le plus important du champ de Borodino. Il venait annoncer que les troupes tenaient toujours ferme et que les Français n'osaient plus attaquer.
« Vous ne pensez donc pas, comme les autres, que nous sommes obligés de nous retirer ?»
lui demanda Koutouzov en français.
« Au contraire, votre Altesse, dans les affaires indécises, c'est toujours le plus opiniâtre qui reste victorieux. Et mon opinion... »«
Kaïsarov !»
s'écria Koutouzov.
« Prépare-moi l'ordre du jour, et toi... »
dit-il à un autre.
« Parcours les lignes et annonce l'attaque pour demain. »
Pendant ce temps, Wolzogen, revenu de chez Barclay, prévint le maréchal que son chef demandait la confirmation par écrit de l'ordre qu'il lui avait donné. Koutouzov, sans même le regarder, fit aussitôt libeller cet ordre qui mettait à couvert la responsabilité de l'ex-commandant en chef. Grâce à l'intuition morale et mystérieuse de ce qu'on est convenu d'appeler l'esprit de corps, les paroles de l'ordre du jour de Koutouzov se transmirent instantanément jusqu'aux extrémités de l'armée. Ce n'étaient plus certainement les mêmes mots qui leur parvenaient, et il n'y avait même rien de vrai dans les expressions attribuées à Koutouzov, mais chacun en comprit le sens et la portée. En effet, elle n'était pas le résultat de combinaisons plus ou moins habiles, mais elle traduisait fidèlement le sentiment caché au fond du cœur du commandant en chef, et ce sentiment trouvait un écho dans le cœur de tous les Russes. Tous ces soldats épuisés et hésitants, apprenant qu'on attaquerait l'ennemi le lendemain, sentaient que ce qu'il leur répugnait de croire était faux. Ils furent consolés et leur courage se ranima.